Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Emma, la radio des adolescents hospitalisés à l'espace méditerranéen de l'adolescence, implantée à l'hôpital Salvatore de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. À l'occasion de la journée internationale des TCA, troubles des conduites alimentaires, nous proposons ce podcast en partenariat avec l'association AAB13, dont deux représentantes sont parmi nous aujourd'hui, Séverine Henrard et Sophie Ducrèze. Bienvenue à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes réunis aujourd'hui avec les adolescentes de l'espace Arthur, un service dirigé par le docteur Flora Batt, sous la responsabilité du professeur David Dafonseca, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Séverine Henrard et Sophie Ducrèze, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour représenter les parents d'adolescents souffrant d'anorexie et poser à nos adolescentes autour de cette table un ensemble de questions que les parents se posent et pour lesquelles ils n'ont pas forcément de réponse. Donc nous allons échanger tout au long de ce podcast autour de ces questions auxquelles les adolescentes tenteront de répondre. Et nous allons commencer par la première question.
J'aimerais savoir comment vous vivez l'hospitalisation, plutôt comme une aide ou une contrainte ?
Après, je pense que c'est une réponse qui demeure très personnelle parce qu'on n'a pas tous la même, on n'a pas tous la même vision des choses. Moi, je le vis plutôt comme une contrainte, mais qui a du bon.
Moi, franchement, ça dépend parce que j'ai eu plusieurs hospitalisations. Les deux premières, je les ai plus vécues comme des contraintes parce qu'on m'a laissé aucun choix. C'était tu es hospitalisé, mais celle-ci, je l'avais plus comme une aide parce que je l'ai un peu plus choisie. Enfin, c'était avec mon accord.
Moi, j'avais pas trop le choix, mais c'est un peu moi qui finis par l'accepter aussi, donc je le vois plutôt comme une aide aussi.
On a des contraintes au quotidien, mais sinon, je sais que sans ça, j'aurais pas réussi à aller mieux. Donc, c'est plutôt une aide.
Pareil pour moi. Si je serais pas mieux ici, je serais. Enfin. Je ne sais pas où j'en serai chez moi encore.
Je vous propose, avant de poursuivre cet échange, d'écouter le spot officiel en fait, de la journée mondiale des TCA qui se déroule le 2 juin 2022.
L'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique sont des maladies graves qui touchent 900 000 personnes en France. On les appelle les troubles des conduites alimentaires ou TCA. Le 2 juin prochain, c'est la journée mondiale des TCA. Pour les reconnaître, pour en parler, pour dire que des aides et des traitements existent. Hashtag NoMoreTCA.
Nous poursuivons donc cet échange de questions des parents, représentés par Séverine Henrard et Sophie Ducrèze de l'association AAB13.
Comment envisagez-vous les sorties ? Est-ce qu'elles vous font peur ou envie ?
Bah, moi, envie. Je sais que ça se passe bien à l'extérieur, donc...
Moi aussi, j'attends que ça, toute la semaine.
Moi, en même temps, j'ai envie parce que être ici, c'est pas non plus la grande joie, mais dehors, c'est me reconfronter à des problèmes qui étaient durs, donc c'est difficile.
Enfin, c'est vrai qu'ici aussi, on est un peu en sécurité, donc c'est plus facile d'être ici qu'à l'extérieur, mais enfin, d'un point de vue, moi, je préfère être à l'extérieur aussi.
Moi aussi, j'en ai très envie des sorties, tout ça, mais ça fait quand même peur aussi de revenir un peu à une vie normale, parce que bah, ça veut dire que d'un côté, ça va mieux, et que c'est pour ça qu'on va nous ressortir, et bah, se dire que ça va reprendre comme avant, ça fait très peur, je trouve.
Bah, moi, je suis plutôt contente d'avoir des sorties, tout ça, mais j'ai peur de... Enfin, quand je partirai de cet hospice, j'ai peur de replonger... Dans toute la maladie, et c'est vrai que ça fait peur.
Parce que c'est vrai que l'anorexie, bah, c'est aussi avoir ta routine chez toi. Enfin, et c'est vrai que bah, certaines personnes ont peur de changer ça, donc et ça peut faire peur.
Et en fait, je pense que justement, si on a ces permissions, c'est aussi pour pas refaire comme avant, mais petit à petit, prendre des nouvelles habitudes.
Je pense que surtout, les permissions, c'est pour nous réapprendre à vivre, mais aussi pour nous reconfronter à nous-mêmes. Parce que par exemple, on a des TOC, on a des trucs qu'on a avec l'alimentation avant, et le fait de sortir, c'est qu'on est face à ça, on est face à nous-mêmes, et c'est pour nous apprendre à gérer, et c'est ça aussi qui fait très peur, en fait.
Merci. On poursuit avec la question suivante.
Par rapport à l'alimentation, est-ce que manger avec les autres est très difficile ?
Ouais, plutôt.
Oui. C'est un peu difficile parce que tu te sens un peu observé, et puis ils mangent pas forcément la même chose, donc... Il y a un peu de la comparaison aussi qui se met en place.
Oui, c'est vrai. Je crois aussi que c'est un peu difficile, mais en soi, c'est important de réussir à nouveau à le faire. Ici, ça me dérange moins de manger parce que, ben, on est tous un peu confrontés à la même chose, tout ça. Mais en dehors de chez moi, à part avec mes parents, ça me fait trop peur de manger avec d'autres personnes parce que j'ai un peu honte de ce que je suis obligée de manger.
En fait, moi, c'est des situations qui dépendent dans le sens où parfois, quand je mange avec mes amis, au contraire, ça m'aide, surtout quand c'est dans certaines situations, quand on va faire des pique-niques, on va au resto ou quoi. Mais quand c'est dans la vie de tous les jours, que c'est des repas censés être normaux, parfois ça peut être plus compliqué du coup parce qu'on a un protocole, on doit suivre un régime plutôt strict entre guillemets, du coup c'est dur de voir que parfois des personnes vont manger moins que toi, on se compare, enfin, même la famille aussi parfois elle a un regard un peu différent par rapport à tout ça, ça peut être compliqué à gérer.
En tant que parent, on se demande quelle attitude on doit avoir quand on est avec son enfant à table. Est-ce qu'on doit le complimenter? Est-ce qu'on doit ne rien dire?
Personnellement, je sais que je déteste quand mes parents me complimentent sur ce que je mange parce que c'est censé être quelque chose de normal. Et qu'on me dise bravo, t'as mangé un poisson, ou bravo, t'as mangé une glace, je trouve ça assez. Enfin, je trouve ça un peu. En fait, moi, je me sens mal, je me sens humiliée un peu, je me sens. Enfin, c'est juste, on me rappelle que je suis malade en fait et que quelque chose censé être normal, quand je le fais, c'est quelque chose de fou. Pour certaines personnes,
c'est exactement pareil pour moi avant, quand mes parents me disaient ah, c'est bien, t'as mangé, tout ça. En fait, c'est quelque chose qui pourrait me faire plaisir, mais en fait, au contraire, ça me déprimait. Ça m'était très mal.
Même si c'est une bonne intention, on le sait, mais c'est dur en fait à entendre.
Moi, pareil, quand mes parents me complimentent et tout ça, ça me met mal à l'aise parce que ça me fait me dire que j'ai mangé tout ça, j'ai fait comme. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait, mais d'un côté, du coup, la maladie te fait culpabiliser encore plus et c'est compliqué à gérer.
Surtout que ça peut aussi continuer à diaboliser certains aliments parce que quand c'est des légumes, on va rien te dire. Par contre, si tu manges une glace, on va te dire ah, ça c'est bien, t'as mangé la glace. Donc, dans nos têtes, ça fait oh mon dieu, j'ai mangé une glace. Donc, si c'est quelque chose c'est de vrai. Fou, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas bon, entre guillemets, à de base pour moi.
Et aussi pour la culpabilité, quand même, quand on dit c'est bien, quand on nous complimente, ça fait beaucoup la culpabilité déjà qu'on en a, donc en plus quand on nous fait rappeler c'est plus difficile.
Après moi je dirais que quoi que les parents disent ça ira jamais. Non mais c'est vrai, moi mes parents ils me félicitaient pas, je leur râlais dessus, je leur disais mais vous voyez pas tous les efforts que je fais, et quand ils me félicitaient je partais vraiment en cacahuète parce que je supportais pas qu'on me félicite parce que j'avais ce côté de culpabilité. Donc en fait quoi que vous fassiez, ça va pas aller, je pense.
Je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire quoi qu'ils disent, ça n'aidera pas, parce que j'ai discuté justement avec mes parents par rapport à ça, et je leur ai dit ce qui pourrait m'aider quand ça va pas, ce que je veux pas entendre, ce que j'aimerais entendre, et à partir de ce moment-là, ils se sont adaptés. Et enfin, ça a été une aide, au contraire.
Moi aussi, je rejoins pas mal le point des filles par rapport... à culpabilité quand on nous félicite, parce que comme c'est censé être quelque chose de difficile, parce que quand on nous félicite, ça veut dire que c'est un moment compliqué, je m'en veux du coup de l'avoir fait, d'être passé au-dessus de ça un peu. Mais sinon, dans ce qui peut aider pendant les repas, c'est juste de faire, enfin en tout cas pour moi, c'est de faire comme un repas, un repas normal, quoi, de discuter, tout ça, et avec mes parents, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, on est dans l'élan de ça, et je trouve que ça facilite beaucoup les choses quand il y a de la discussion et qu'on passe un bon moment.
Ouais, après, juste rendre le repas naturel, comme un repas normal, voilà. Si on n'était pas malade, s'il n'y avait aucun problème, juste faire comme d'habitude.
En tant que parent, je me demande souvent dans quel état d'esprit est mon enfant quand il est malade. Et quelles pensées ou sentiments cela peut-il engendrer chez lui?
Moi, je sais que je ressentais beaucoup de satisfaction. En fait, quand j'écoutais la maladie, j'étais satisfaite de moi, vu que quelque part, je remplissais le job. Et du coup, je ressentais beaucoup de satisfaction et finalement, peu de tristesse, peu de moments comme ça, parce que j'étais comme dans une bulle.
Oui, moi aussi, c'est un peu comme ça. C'était un peu mes moments de réussite. Ça... Et je pensais que c'était par ça que j'allais prendre de la confiance en moi et tout ça, et je pensais que j'avais trouvé la solution, justement là ça allait mieux parce que enfin je faisais quelque chose pour moi, c'était moi qui le choisissais, qui le décidait, c'était il y avait personne qui disait rien dessus parce que déjà les gens n'étaient pas au courant, mais que je gardais ça pour moi et que du coup avec ça je pouvais un peu contrôler tout ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas.
Ouais, pareil, puis du coup j'étais toujours satisfaite de ce que je faisais, j'étais dans ma bulle, je voulais que rien change, enfin voilà.
Et ça donne pas l'impression d'être malade aussi. Enfin, ouais. En tout cas pour moi j'avais pas l'impression d'être malade parce que je pensais que justement ça allait mieux.
Moi ouais, c'est pareil, par exemple quand je coupais un repas ou que quand je voyais la balance qui que je perdais du poids, j'étais vraiment satisfaite, mais une fois que des fois je craquais en prenant plein de choses à manger, bah, c'était là à ce moment-là que je me enfin j'étais le plus mal, donc c'était compliqué de gérer pour moi les émotions.
Moi justement ça a beaucoup varié au début de quand je suis dans la maladie, du coup la première année c'était ça, c'était un peu le sentiment de satisfaction. Puis au fur et à mesure, ça a été l'inverse, en fait. C'était un peu mon moyen de me gâcher, de me détruire, en fait, parce que j'en avais marre. Mais du coup, ça me faisait juste du mal. Et encore une fois, après, ça continue à évoluer. Mais oui, moi, c'était pas forcément de la satisfaction. Au contraire, je m'en servais justement pour me faire du mal, en fait.
Après, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a un moment où on est dans la satisfaction. Et après, on peut attribuer une autre qualité, entre guillemets, à l'anorexie. C'est comme un peu un long suicide. Et il y a des gens, quand ils vont pas bien, ils ont besoin de se faire du mal. Et quelque part, l'anorexie, c'est un peu ça. C'est un peu, bah, je vais pas bien. Et pour aller mieux, bah, on écoute souvent des musiques tristes. Bah, là, c'est un peu la même chose.
Moi aussi. Enfin, moi, je sais que j'avais une partie de moi qui voulait m'en sortir vers la fin. Et puis une autre partie, bah, qui, pas du tout. J'aimais ce que je faisais, tout ça, mais d'un côté j'en avais marre et j'arrivais pas à m'en sortir. Je voulais en fait me détruire, quoi, et voilà.
Moi aussi c'était un peu comme ça, il y avait une partie de moi qui voulait y arriver, mais en fait je pensais que ça irait mieux quand je sortirais d'hôpital. Enfin, au tout début j'étais pas dans cet hôpital là, j'étais dans un autre qui n'était pas spécialisé. Et je pensais qu'il suffisait que je sorte et que j'avais pas besoin de reprendre en particulier du poids ou des habitudes alimentaires normales. Et que juste guérir, on va dire entre guillemets, c'était de sortir de l'hôpital et qu'après j'allais pouvoir reprendre mes habitudes. Mais comme je pensais pas que j'étais malade, bah du coup je me disais que c'était juste une question de un peu de lieu et que après je pouvais reprendre ça et que ça irait très bien.
Nous sommes toujours en compagnie de Séverine Enrard et de Sophie Ducresse de l'association AAB13 pour représenter donc les questions que les parents se posent vis-à-vis de leurs adolescents anorexiques.
En tant que parent, y a-t-il des limites dans le soutien que je peux apporter à mon enfant malade ?
Moi je dirais il y a la limite du somatique, c'est-à-dire qu'à un moment on est tellement faible, parce qu'il y a un moment où on peut se battre chez soi, les parents peuvent nous aider, mais à partir d'un certain poids qu'on dépasse, bah, c'est plus possible parce qu'on n'a plus la force, ne serait-ce que physique, de réussir à se battre. Et donc et même le terme se battre c'est compliqué parce qu'on se bat un peu contre soi-même, on se bat pas contre l'anorexie, enfin c'est compliqué. Mais je pense que les parents ils peuvent aider, mais c'est vrai qu'il faut... Il y a un moment, si on dépasse un poids, s'il n'y a plus de discussion, c'est l'hospitalisation.
Ça, je suis plutôt d'accord sur le côté somatique. Mais après, ce qui reste compliqué, c'est que quand on est parent, il y a aussi ce côté, ben, c'est ton enfant. Et c'est dur de se dire, on va envoyer l'enfant à l'hôpital, on a envie de le voir qu'il s'en sorte seul parce qu'on a foi en lui, on le voit fort. Et du coup, c'est très compliqué. Moi, je sais, par exemple, ma mère est infirmière, il y a le côté infirmier et mère qui s'est mélangé beaucoup. Et c'est très compliqué pour elle, du coup, à gérer.
Moi, je pense que les parents, après, ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils n'ont pas vraiment les mots ni les moyens pour nous aider. À part l'orienter vers quelqu'un de plus spécialisé, je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Moi, je voudrais juste rectifier quelque chose. C'est qu'on ne se bat pas contre soi-même. On ne se bat pas contre l'anorexie, justement. Enfin, c'est pas... On se bat contre l'anorexie pour se soigner.
Aussi les parents, moi je sais que les miens ils se sentaient démunis, hein, ils savaient pas quoi faire, tout ça, ils arrêtaient pas de m'amener aux urgences, j'enchaînais les hospitalisations, tout ça, mais voyais qu'en fait, bah, je sortais, il n'y a rien qui avait changé. Et aussi, bah, ma mère, elle me disait souvent, bah, là, sache que je ne parle pas à toi, mais à la maladie. Donc, on s'insultait beaucoup, tout ça, c'était très compliqué.
Je pense que la meilleure chose à faire, enfin, de la part des parents, surtout parce que c'est compliqué à gérer, c'est directement de s'adresser, en fait, à des médecins. Je pense que c'est juste la meilleure réaction parce que nous-mêmes, au début, on ne veut pas forcément être aidés, mais à un moment, il ne faut pas forcément une hospitalisation, un HDJ ou quoi, au moins un psychologue ou un pédopsie, enfin, quelqu'un qui connaît en tout cas au moins la maladie.
Oui, je suis d'accord. Et oui, mais des fois, c'est un peu dur de prendre des contacts parce que je sais que nous, pendant peut-être plus d'un mois, ben, on allait voir partout, tout ça, et soit c'était pas assez grave, soit c'était trop, et du coup on se faisait refuser de partout, et en attendant, ben, moi ça ne s'arrangeait pas. Et il n'y avait vraiment aucun médecin avec qui ben, j'étais en contact pour au moins avoir un minimum de suivi. Et je voyais juste une thérapeute que je voyais il y a quelques temps, et que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout spécialisé dedans, mais elle me suffisait à me faire quand même du bien, et juste trouver un peu des petits repères comme ça, ça peut toujours aider. Et il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Je pense qu'au début, ça m'aurait vraiment mis en colère parce que ça n'allait pas dans mon sens, forcément. Mais c'était peut-être de voir, par exemple, une nutritionniste, tout ça. Parce que ben, je me rends compte qu'on n'y a vraiment jamais pensé. Et que déjà, juste pour mettre un... ça peut faire un début d'aide parce que si après, il y a l'hospitalisation qui vient, ça peut faciliter un peu plus les débuts.
C'est vrai que c'est très compliqué de trouver des médecins dans cette maladie. Mais moi, ça a duré plus d'un mois. C'est pendant 5 mois au moins, j'en ai cherché. Il n'y a personne qui me voulait parce que j'étais pas assez en sous-poids. On a failli me refuser aux urgences. Enfin, on m'a refusé aux urgences en me disant « Bois de l'eau et reviens quand tu auras encore un peu plus perdu de poids, ça devient trop grave. » Et c'est ça qui est compliqué parce que d'un côté, on en parle de plus en plus, des TCA en général, mais ça reste très flou, même pour les médecins. Ils savent pas à quel moment nous prendre, à quel moment il ne faut plus nous prendre parce que ça devient trop grave au niveau somatique. Et mais nous, on ne sait plus quand on va trop mal, quand on va pas assez mal, si on va trop mal, si on va pas assez mal.
Le souci, c'est que c'est vrai que malheureusement, mais c'est pas que la pathologie de l'anorexie, les dépressions et tout ça, il manque de médecins. Et moi, je sais que on m'avait aussi refusé aux urgences, et je pense que si on m'avait pris aux urgences à ce moment-là, bah, j'aurais pas frôlé la mort. Parce qu'en fait, justement, il y en a, les médecins ils s'appuient surtout sur le plan somatique, alors qu'en fait, c'est le plan psychologique le plus important. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais tellement dans la maladie que on m'aurait aidé là, ça aurait peut-être pris 2 semaines, 1 mois, et je m'en serais sortie. Et là, à la place, bah, du coup, ça a pris 1 an.
Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que je me rappelle que les urgences qui nous avait, déjà je me sentais pas malade, mais qui nous avait dit ramenez-nous là quand elle tombe. Et comme bah, je suis jamais tombée, je me suis dit que bah, non, j'étais jamais été suffisamment malade.
Qu'est-ce que vous pensez des sujets à aborder avec votre entourage, votre famille, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, les amis très proches, les amis de vos parents ou vos propres amis?
Je pense que c'est à nous ça d'en décider en fait. Finalement au début ma famille se permettait, enfin surtout mes parents, se permettaient de raconter tout à tout le monde, même au caissier ou coiffeur que je ne connaissais pas. Et ça m'a fait beaucoup de mal, et c'est après leur en parlant que je leur ai dit en fait arrêtez de faire ça. Certaines personnes vous pouvez leur dire ça, d'autres vous pouvez pas leur dire ça. Je pense que le plus important, c'est que ça vienne de l'enfant, le choix, en fait, de quoi on parle, à qui on en parle, et donc jusqu'à où on peut en parler.
Moi, après, au niveau des sujets à aborder, c'est vrai que dans ma famille, on ne s'est jamais voilé la face, dans l'idée qu'on a toujours accepté que j'étais malade, et moi, tout l'entourage de mes parents le savent que je suis malade et quelle maladie j'ai. Et même les clients de mon père, ils savent que je suis malade. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question si j'en avais eu envie que tout le monde le sache ou non. Mais maintenant que c'est fait, je me dis que c'est vrai qu'on n'est pas censé avoir honte, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. Donc c'est pas grave si les gens le savent, et les gens ils nous jugent pas. Il faut pas croire qu'on est jugé. Au contraire, ils vont vouloir nous aider. Et je pense qu'il faudrait réussir à aborder tous les sujets, même si c'est difficile au début, parce qu'en fait, à la fin, je vous assure, ça aide.
Moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui sont au courant. Après, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la maladie. Du coup, j'ai déjà eu droit à certaines gaffes. Parce que j'en veux pas du tout, parce que bah, même moi, des fois, je la comprends pas forcément. Mais c'est vrai que ça me gêne un peu qu'il y ait... Enfin, c'est plutôt des personnes proches qui en sont au courant, ou la famille. Mais sauf que j'ai pas envie qu'après, quand on pense à moi, ce soit la personne malade, enfin, qu'on me... un peu comme une étiquette, et même si il y a des personnes qui sont au courant, je sais que j'aurais pas pu faire autrement parce que bah, ils font partie de notre entourage proche, tout ça. C'est que je veux pas que je sois juste ça. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est vrai qu'on peut pas le cacher à tout le monde, même surtout après quand on est hospitalisé ou quoi, ou quand on a une difficulté à être avec les autres, parce que bah, ça va se voir, mais que ça reste quand même quelque chose de très personnel dont on n'a pas forcément envie. Enfin, on peut le dire aux personnes de notre entourage, mais que ça reste vraiment juste comme ça pour avertir et pas forcément qu'ils se mettent dedans un peu. Enfin, qu'ils veulent trop en faire partie un peu.
Je suis d'accord avec elle par rapport à tout ça, parce que enfin, moi justement, c'est ce qui s'est passé, c'est que on m'a collé du coup l'étiquette de l'anorexique, alors que clairement c'est pas ce que j'ai envie, parce que je suis pas l'anorexie. Je suis une personne à part entière et je souffre d'anorexie, je ne suis pas l'anorexie. Et sauf que c'est comme c'est une maladie qui n'est pas comprise, qui n'est pas forcément connue, mais moi, avant, je ne comprenais pas cette maladie. Les gens, quand ils apprennent que tu souffres de ça, ils ont directement des préjugés. C'est très dur d'en sortir parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Même nous, on a du mal à le comprendre.
Moi, je sais, il y a encore quelque chose qui me gêne beaucoup. Ben, voilà, c'est quand le soir, ben, j'ai des appels de ma famille, tout ça, c'est toujours... Ben, ah, ben, tu as repris combien? Ah, ben, c'est bien et tout. Enfin, j'ai l'impression, en fait, qu'on me voit vraiment comme un poids. Alors que, bah, non, enfin...
Et nous allons terminer par la dernière question.
En tant que parent, souvent, je me demande un peu sur quel pied danser. Si je suis trop investie dans la maladie, mon enfant peut ressentir que je l'étouffe. Et si je prends de la distance, il peut penser que je le rejette. Que dois-je faire? Est-ce qu'il y a un juste milieu?
Alors moi, je tiens à dire que la maladie, ça détruit aussi les parents. Du coup, plutôt pour se protéger, quelquefois mettre de la distance, ça peut autant aider l'enfant que les parents. Parce que les parents, moi, les parents, ils ont été détruits par cette maladie. Vraiment. Et donc, pas plutôt penser à vous avant de penser à votre enfant. Parce que votre enfant, s'il est entre de bonnes mains entre les médecins, il n'y aura pas de souci. Du coup, il faut aussi penser à soi quand on est parent. Parce que sinon, on se détruit et ça devient contre-productif.
Bah, je pense que ça dépend beaucoup du stade. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas suivi par des médecins, vous ne pouvez pas mettre trop de distance parce que ça peut mettre vraiment en danger l'enfant. Après l'hospitalisation, ça arrive que parfois on mette une distance parce que bah, la famille, ça peut être une des raisons de la pathologie, mais une des raisons parce que c'est multifactoriel cette maladie. Mais oui, ça dépend, voilà, le stade, où est-ce que t'en es, si on est suivi, pas suivi. Mais il faut pas totalement non plus lâcher, parce que ça peut s'avérer dangereux.
Moi, je sais que quand j'étais pas suivie, mes parents, ils étaient très, très présents et tout ça. Mais à partir du moment où j'ai été prise en charge, bah, ils ont pris des distances, mais dans le bon sens du terme. Parce que, enfin, il fallait pas créer un conflit dans la famille et... Et c'était plutôt aux médecins de prendre les décisions un peu compliquées plutôt que mes parents. Et il vaut mieux qu'à partir du moment où on est pris en charge, bah, que les parents s'éloignent un peu de ça.
Oui, voilà. Même ça les permet de se protéger aussi eux, parce qu'on ne peut pas enlever le fait qu'ils accumulent aussi beaucoup de choses. Ils voient leur enfant souffrir, ils ne savent pas comment réagir. Et le fait d'avoir une distance, même si ça fait mal, ça permet aussi à eux de se protéger de ça en fait.
Mais... Après, quand on met trop de distance, faut non plus pas le laisser, parce que des fois on peut un peu le laisser tout seul et du coup ça le renferme un peu sur toutes ses pensées, donc ça le met plus en danger qu'autre chose. Donc faut être là entre le juste milieu. Si on met de la distance,
faut pas le rejeter. C'est vrai, faut pas rejeter l'enfant, mais faut savoir se.
Comment dire,
mais après, s'il se détacher de tout ça en fait.
Mais s'il est suivi, on peut se permettre de mettre un peu de distance pour se protéger, c'est vrai, mais après, s'il est tout seul, vaut mieux pas essayer. Ça peut être dangereux.
Bah, moi, je sais que, ouais, à ma première hospitalisation, on m'avait dit coupure familiale au moins pendant un mois. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup du bien. Donc, après, quand on m'a autorisé les visites, tout ça, en fait, on se retrouvait, mais différemment, on parlait d'autres choses. Ça nous avait fait vraiment du bien parce que c'était très, très compliqué. Ils étaient trop sur moi. Du coup, je m'isolais, mais en fait... ça n'arrangeait rien du tout, quoi. Donc, je sais que cette coupure familiale, ça m'avait fait du bien.
Moi, je dirais que, en fait, souvent, il y a des psychologues qui expliquent que quand on doit recevoir de l'amour, de l'aide, si la personne qui la reçoit n'est pas pour la recevoir, ne la veut pas, donc de l'amour ou des câlins, en fait, c'est comme si le message n'y passait pas et du coup, il y avait comme un éclair. Tandis que si c'est l'enfant qui demande de l'affection, et alors la façon de la demander, ça peut être justement en ne pas mangeant. C'est ça qu'il faut réussir à détecter quelquefois. Il faut peut-être que les parents, ils demandent à l'enfant, est-ce que tu veux qu'on soit là? Est-ce que tu poses des questions à l'enfant pour que lui-même, il ose dire aussi ce dont il a besoin et peut-être pas lui donner directement. Enfin, d'abord poser la question s'il en a besoin et ensuite transmettre l'amour.
C'est aussi ce que j'allais dire, de ne pas hésiter un peu à demander à l'enfant concerné... à quel moment ils préfèrent que les parents soient présents, tout ça. Mais que c'est quelque chose qui peut être utile pour éviter de faire trop de bêtises. Enfin, qu'en fait, je pense que les parents, ça doit être quelque chose un peu comme à côté de la maladie, la parenthèse où tu passes un bon moment, ou tout ça. Alors qu'il y a, moi, il y a eu des moments où peut-être ils étaient vraiment dedans. Et par exemple, il y a eu des appels qui avaient été compliqués parce que voilà, les choses fonctionnaient pas forcément comme ils le voulaient. Et qu'après, moi, j'avais l'impression que c'était de ma faute, tout ça, et que je m'en voulais beaucoup parce que je savais que je leur faisais du mal, tout ça. Mais en même temps, moi, j'arrivais pas à faire autrement. De tous les efforts que je faisais, c'était plus pour eux, pour qu'ils aillent mieux, pour leur faire plaisir, que moi, parce que j'en avais réellement envie.
Après, moi, je sais que souvent, mes parents se questionnaient sur est-ce qu'il faut l'hospitaliser ou non. Et le souci de l'hospitalisation, c'est que certes on se remet à manger, mais il y a le risque qu'on se remette à manger pour les autres, pour sortir, et pas vraiment pour soi au fond. Et c'est ça le problème, on va dire, de l'hospitalisation. C'est pour ça qu'on dit qu'on ressort pas forcément guéri de l'espace Arthur, parce que malheureusement, on peut le faire, mais pas forcément pour soi, et je pense qu'on mange pour soi avant tout, et pas pour les autres.
Moi, du coup, c'est ce qui s'est passé, sur toutes les hospitalisations tout que j'ai eues. En fait, c'était plus... faire plaisir à mes parents, et moi en fait je savais que hop, j'allais rentrer chez moi, j'allais retrouver ma routine, tout ça, mais du coup de voir mes parents eux contents, tout ça, ça me faisait plaisir, mais je savais que ça allait pas durer longtemps, quoi.
Il faut trouver les bonnes raisons de pourquoi on le fait, pour être sûr que ça tienne, parce qu'après on va pas toujours vivre pour les autres, donc si on trouve vraiment des choses pour les auquel ça nous tient, tout ça, de nous donner des vraies raisons de le faire, il y a plus de chances que ça fonctionne si c'est vraiment juste temporaire, le temps qu'on ait de décocher un sourire et voilà.
Moi, je répète sans cesse à mes parents, moi aujourd'hui je veux vivre, j'en ai marre, je veux vivre. Et je pense que c'est, on trouve une clé quand on arrive à se dire c'est pour moi et pas pour les autres.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à toutes d'avoir répondu à ces questions, en espérant que les parents auront trouvé certaines réponses dans ces propos si personnels et si constructifs. Merci infiniment à l'association AAB13 d'être notre partenaire sur ce podcast et d'avoir fait ce relais des parents envers les adolescentes. Et donc, merci aux adolescentes de l'espace Arthur d'avoir répondu aussi justement et aussi honnêtement. Vous pourrez retrouver ce podcast sur le site de Radio Emma, www.radio-ema.com, et sur le site de la Journée mondiale des troubles des conduites alimentaires, www.journemondialetca.fr. Merci et à bientôt, au revoir.